Bonsoir. Encore aujourd'hui, des manifestations d'agriculteurs dans l'ouest de la France, à Caen notamment, pour protester contre la chute de leurs revenus. Climat de tension alors que le grand salon de l'agriculture va ouvrir ce week-end, porte de Versailles à Paris. Tiens, justement, ce salon de l'agriculture, est-ce que ça sera l'occasion d'entrer dans une nouvelle ère pour construire l'avenir avec peut-être plus de qualité, plus d'innovation, du bio, du digital, beaucoup de digital, vous allez le voir. Alors, est-ce que l'agriculture, c'est la nouvelle filière d'excellence? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, l'agriculture, nouvelle terre d'excellence. Oui, est-ce qu'un vent d'espoir souffle sur la profession alors qu'on est toujours en crise, hein? Manuel Valls, tout à l'heure, recevait le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, à Matignon. Il a lancé, d'ailleurs, le Premier ministre, un appel à la Commission européenne. Arrêtons d'ajouter les crises, une nouvelle crise aux crises, la crise des migrants, notamment. Eh bien, faudrait pas qu'il y ait encore la crise de l'agriculture. Et il somme la Commission européenne d'agir pour les éleveurs. La France est aux côtés de ses agriculteurs. On ne les laissera pas tomber. Voilà ce que disait le chef du gouvernement tout à l'heure. Alors, dossier ouvert dans les décodeurs de l'écho ce soir, notamment avec Michel Portier, directeur général d'Agritel, société de conseil sur les marchés de l'agro-industrie. Avec nous également Henri Zac, il est vice-président de la transformation numérique à l'université de Paris-Dauphine. On va beaucoup vous parler de numérique, de digital, y compris au sein de l'agriculture. Ça va peut-être vous surprendre, hein. Restez avec nous, évidemment. Maximilien Rouer, expert en stratégie agricole, co-auteur de « Les agriculteurs à la reconquête du monde ». Avec nous également, il est venu de Laval, spécialement pour vous, ici sur BFM Business. Il repartira juste après. Vincent Jamais, directeur du développement d'Advanciel, qui fait de la... Vous allez voir, des lunettes connectées, un peu des Google Glass pour les agriculteurs. Et puis, bien sûr, quand on parle de numérique, Frédéric Simotel, d'ailleurs, qui va consacrer une partie de son 01 Business samedi à 19h, justement à ce monde agricole. On va le retrouver dans un instant. Oui, un exemple pour démarrer. Est-ce que vous savez que le monde agricole est le premier utilisateur de drones en France? Reportage cet après-midi dans l'Oise avec Jean-Baptiste Huet.
Commune de Montépilloy dans l'Oise, ici ce sont des champs à perte de vue. Benjamin dirige son exploitation et il est également pilote de drone agricole. Cette aile volante de 700 grammes est capable de monter à 150 mètres d'altitude afin de cartographier un champ grâce à 4 capteurs, dont un infrarouge. Le principe est simple, les plantes émettent des rayonnements lumineux différents en fonction de leurs besoins en engrais. Une technologie qui permet donc de connaître les besoins précis d'une parcelle au centimètre près. Benjamin Bouly.
Soit on va mettre moins d'azote parce que la plante n'a pas de potentiel et donc on va économiser de l'argent, on va économiser de l'engrais. Soit on va mettre la bonne dose, on va en mettre plus parce qu'il y a un potentiel et à ce moment-là on va gagner en rendement.
Le décollage se fait très simplement, il suffit de lancer l'aile. Le drone se pilote ensuite automatiquement, il faut lui avoir auparavant indiqué le chemin. Quant à l'atterrissage, de quoi faire pâlir les meilleurs pilotes du monde, c'est tout en douceur. Comptez 15 euros de l'hectare pour deux vols. En fait, le système fonctionne un peu comme la franchise. C'est Benjamin qui est chargé par Erinov d'effectuer les vols auprès des clients dans une zone donnée. L'entreprise ne fabrique pas le drone, mais son capteur. Elle se pose d'ailleurs volontiers comme un spécialiste du traitement de l'image. Une fois les vols effectués, on peut observer les résultats sur des cartes. Kevin Tamboisse est le responsable de la production chez Erinov.
Le cœur de métier d'Arinos, c'est vraiment de savoir faire parler les données d'un point de vue agronomique et d'appliquer un conseil qui est directement exploitable par l'agriculteur.
Dans les zones rouges, on vient apporter beaucoup plus d'engrais que dans les zones bleues, puisque dans les zones bleues, on a une plante qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus d'engrais pour pousser. En fait, on vient s'adapter aux besoins effectifs de la plante et l'idée, c'est vraiment de mettre la bonne dose d'engrais au bon endroit en fonction des besoins de la plante.
Chaque année, plus de 8000 vols sont effectués et la tâche est gigantesque, puisque pour chacun, réglementation oblige, il faut une autorisation. La philosophie d'Erinov, l'avenir de vos terres est dans le ciel. Quant à l'avenir du groupe, plutôt florissant, l'entreprise commence à être de plus en plus sollicitée par nos voisins européens.
Voilà, reportage donc de Jean-Baptiste Huet avec Erinov cet après-midi dans le département de l'Oise, justement, où il a révolution 2.0 en marche dans les champs. Les drones, Frédéric Simotel, je t'ai étonné d'apprendre que justement, c'est le secteur agricole qui utilise le plus en France de drone. Tiens, justement, vous êtes venu avec ce drone d'Erinov.
Justement, voilà, pour celui que l'on a vu dans le reportage. Ouais. Donc c'est une aile, hein, elle fait à peu près 700 grammes.
700 grammes, c'est
700 c'est grammes, léger, donc hein. c'est un drone. Donc il a son vol qui est enregistré. On a au-dessus un petit capteur pour la luminosité. Et puis en dessous, on a une caméra qui va...
Ce que nous montrait Jean-Baptiste.
Qui va prendre en photo les feuilles et donc permettre au bout de deux jours, il y a deux jours d'analyse de données, de fournir un graphe à l'agriculteur pour lui dire voilà dans les endroits où il faut rajouter un peu plus d'azote. Mais c'est vrai que le fondateur d'Erinov, Romain Farroux, me disait il y a encore 3 ans, je faisais une conférence sur le drone, j'avais trois agriculteurs qui restaient discuter avec moi. Aujourd'hui, ils sont tous regardent, parce que c'est vrai que c'est pas le drone en lui-même, hein, on est loin du gadget, c'est vraiment toutes les données qu'il va permettre de récupérer et qui vont permettre d'optimiser, parce que le but c'est ça, hein, le but c'est d'optimiser vraiment sa parcelle.
Oui, Henri Zac, un capteur comme celui de ce drone Erinov, il a été conçu en collaboration donc avec l'INRA. C'est un drone comme celui-là, il est capable de réaliser de 30 à 50 vols par jour. Voilà, c'est indispensable maintenant.
Ça correspond à la numérisation de la société. L'agriculture n'y échappe pas. C'est une mise en données du monde qui va permettre de développer une agriculture de précision. Donc effectivement, avec des avantages que l'on voit, c'est-à-dire de moins de consommation d'intrants, moins de pesticides nécessaires pour optimiser la culture. Mais c'est pas uniquement que la partie production, où il y a beaucoup de choses, puisqu'il y a de la robotique qui arrive, qui va permettre de réaliser certaines tâches où il y a parfois du mal pour trouver des bras. Hein, dans la viticulture, il y a des tâches qui sont peu attirantes.
Valorisantes, voilà, bien sûr.
Hein. Exactement. Et puis même dans le maraîchage, où on voit aussi de la robotique arriver. Bref, il y a sur la partie production beaucoup d'optimisation que le digital va apporter, mais il y a aussi la distribution, hein, avec l'émergence de nouvelles formes de commercialisation directe des produits, c'est les circuits courts. Mais il y a aussi toute la question de la traçabilité que le digital va apporter, puisque aujourd'hui, on a même les consommateurs qui s'emparent de la question de la traçabilité, avec des gens comme Open Food Fact, qui vont renseigner les données sur les données nutritionnelles que parfois manquent sur certains produits. Et donc le digital concerne en fait la production, la distribution et la consommation.
Je souhaite, c'est passionnant. Michel Portier, donc à la tête d'Agritel, société de conseil, mais également cultivateur, hein, dans le département de la Seine-et-Marne. Vous avez de grandes...
Dans l'Oise.
C'est dans l'Oise, pardonnez-moi. C'est dans l'Oise. Vous utilisez des drones chez vous ?
J'ai un drone.
Vous avez un drone ?
J'ai acheté mon propre drone. Ouais. Alors, on va dire qu'il ne fait pas la même chose que Erinov pour l'instant. C'est-à-dire que c'est un drone, on va dire, plus à destination uniquement d'observation de mes parcelles. C'est-à-dire que je ne vais pas enregistrer aujourd'hui tout ce qui est chromatographie, etc., des plantes, mais je m'en sers pour suivre l'état de mes cultures. Et donc, aujourd'hui, pour 500 euros, grosso modo, vous arrivez à trouver un drone. On peut avoir ça, j'allais dire, en tant que particulier. Et je m'en sers à la fois sur mon exploitation agricole pour regarder l'état de mes cultures. Et puis, je l'ai acquis notamment aussi pour Agritel lorsqu'on va faire des crop tours. Hein, c'est-à-dire, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, je rentre d'Ukraine. J'étais en Ukraine hier. J'ai été voir un petit peu l'état des cultures en Ukraine. Ben, c'est beaucoup plus facile avec un drone, avec une caméra. Hein, vous prenez votre tablette. Ouais, et puis, sur la tablette, vous observez l'état des cultures.
Ouais, et on gagne du temps.
On gagne du temps. Et puis, c'est beaucoup plus fiable que simplement regarder du bord du champ un petit peu ce qui se passe sur la parcelle.
Je comprends. Frédéric Simotel, je disais, vous allez consacrer donc une partie de 01 Business que vous présentez tous les week-ends à la télé sur BFM Business. C'est samedi à 19h au Salon de l'Agriculture, justement. Salon de l'Agriculture qui aura cette année un peu des airs du Consumer Electronic Show de Las Vegas, Mobile World Congress de Barcelone, c'est un petit peu tout ça.
Ou du Salon de l'Auto aussi, où on parle beaucoup numérique. Oui, il y a un espace, par exemple, qui s'appelle la Ferme Digitale, où il y aura plusieurs start-up qui viendront exposer leurs innovations. Donc c'est beaucoup de choses à partir des capteurs, hein, évidemment, pour traiter ces données. Mais encore une fois, l'important c'est ces capteurs, mais l'important c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Alors ces données, elles vont être à l'usage de l'agriculteur, mais ensuite elles peuvent partir sur des plateformes de trading pour savoir un peu quels vont être le type de cultures qui vont arriver sur le marché.
Enfin, instantanément. Hein.
Il y a vraiment tout un tas d'innovations autour de ça. Et puis bien entendu, on parle des tracteurs. Tiens, les tracteurs, il y a des tracteurs autonomes aujourd'hui qui vont sillonner les champs, et plutôt que ce soit l'agriculteur qui va manœuvrer pour faire tourner le tracteur, ben ça va non seulement ça va se faire de façon autonome, mais en plus ça va suivre précisément les lignes qui ont été dessinées. Comme ça, il n'y aura pas de chevauchement que l'on aurait peut-être fait, l'humain l'aurait peut-être fait. Le robot ne le fait pas.
Ce que nous disait Henri Isaac tout de suite, avec notamment ces robots dans pour les cultures maraîchères, c'est vrai que c'est très pénible, très fatigant de se pencher entre des rangées de salades ou des rangées de fraises pour retirer les mauvaises herbes. Ça, c'est facile à faire maintenant avec les robots.
Alors, c'est facile à faire. Il y a une belle start-up française qui s'appelle Nayo, qui est spécialiste dans ces robots. Il faut les rencontrer. Ils ont mis du temps à élaborer ça avec les maraîchers, parce que c'est des robots qui sont dans des conditions d'utilisation qui sont particulières. Et donc, mais en France, on a une vraie filière de robotique agricole.
Oui, ouais, bien sûr. Alors, Vincent Jamais, venu de Laval, ici, dans le studio de BFM Business pour les décodeurs de l'écho, directeur du développement d'Advanciel. Alors, vous allez présenter donc au sein de l'agriculture, hein, vous allez revenir encore ce week-end, hein, pour l'ouverture. Donc, des lunettes connectées, allez, une sorte de Google Glass, c'est ça, qui vont servir à quoi ?
Tout à fait. Alors, on ne va pas présenter forcément des Google Glass, puisqu'il existe plusieurs marques aujourd'hui sur le marché, et le choix pour nous s'est porté sur une autre marque qui s'appelle Debusix. Mais effectivement, on va présenter l'usage de ces nouvelles technologies dans un monde professionnel et dans un monde agricole. Et donc l'idée de ces lunettes est de pouvoir les utiliser de manière complètement autonome, c'est-à-dire que le technicien, l'agriculteur, va pouvoir utiliser ses mains pour pouvoir réaliser d'autres opérations. Par exemple, le comptage de pucerons sur des artichauts, on a besoin d'avoir ses mains pour ouvrir les bractées, pour pouvoir compter le nombre de parasites. Et donc le fait de disposer de ce type de lunettes, ce type de nouvelles technologies, ça va permettre effectivement de libérer les mains et en même temps d'utiliser les technologies pour saisir de l'information, par exemple par de la reconnaissance vocale. Donc plus besoin d'écrire, d'avoir du papier mouillé, de le stocker dans la poche. On va faire tout directement en ligne. Et puis on va même pouvoir avoir la possibilité, pourquoi pas, de pouvoir être connecté et donc de pouvoir avoir un appui, un tutoriel ou un appui d'une personne qui va être à distance, qui va pouvoir répondre à des questions de manière très interactive pour vous dire ce parasite je ne le connais pas, on va regarder dans une base de données, on va répondre directement à l'utilisateur. Donc ces nouvelles technologies ont un vrai impact sur l'utilisation dans le milieu agricole, parce qu'ils vont permettre des saisies répétitives, de simplifier le travail qui parfois peut être pénible pour un certain nombre d'utilisateurs, et puis vont aussi garantir la qualité des données qui vont être saisies. Et je reviens sur ce que disait Frédéric, la qualité des données aujourd'hui est très importante, puisque effectivement, ce sont ces données qui vont être ensuite être agglomérées, être consolidées pour pouvoir apporter des outils d'aide à la décision et faire en sorte que l'agriculteur prenne les bonnes décisions pour la gestion de son exploitation.
Ah oui. Et les usages, ils sont multiples, hein. Vous nous parlez des pucerons dans les artichauts, donc on peut les compter, on peut les identifier, on peut, si on a un doute, on peut se connecter. En effet, ça permet aussi d'identifier aussi, eh bien, ces animaux, son cheptel, par exemple.
Tout à fait. On peut imaginer identifier les animaux, faire de la pesée d'animaux. On peut l'imaginer aussi dans le milieu vétérinaire, par exemple, avec des autopsies, où évidemment on n'a pas forcément les mains très propres. Et puis on peut l'imaginer évidemment au-delà du milieu agricole, dans d'autres secteurs d'activité. C'est vraiment une révolution intéressante et qui permet d'apporter de nouveaux usages, des usages performants et évidemment des gains en productivité et en compétitivité pour les entreprises ou pour les agriculteurs qui les utiliseront.
Lunettes connectées, montres connectées également, voilà, c'est ce que vous faites notamment chez Advanciel aussi.
Tout à fait.
Surveiller par exemple la température du lait dans les stockages une fois que la traite a été faite.
Oui, notre vocation c'est d'identifier les nouvelles technologies qui vont pouvoir effectivement être utilisées derrière, être déployées dans des usages professionnels du milieu agricole, puisque c'est notre cœur de métier. Et donc on a aussi regardé la possibilité d'utiliser les objets connectés, les montres connectées, pour pouvoir détecter par exemple la bonne température du lait dans un tank et éviter pour un agriculteur, parce qu'il a un problème mécanique, de perdre l'ensemble de son tank et évidemment de perdre des revenus qui peuvent avoir un impact conséquent sur les résultats de son exploitation.
Maximilien Rouer avec nous, auteur des Agriculteurs, la reconquête du monde. Oui, ça passera par le digital.
Écoutez, nécessairement, le premier point pour le livre, c'est de se projeter sur les raisons d'espérer. La crise est là, bien installée depuis de nombreuses années. Le sujet, c'est, et après, est-ce qu'il y a une sortie du tunnel ? Donc le message du livre, c'est de dire, oui, il y a une sortie du tunnel. Premier élément très structurant, nous sommes toujours plus nombreux sur Terre. Les terres arables, les terres cultivables sont toujours moins nombreuses. Et troisième élément, le changement climatique vient affaiblir encore plus les terres cultivables restantes. Donc globalement, tenez bon, chers agriculteurs, on aura toujours plus besoin de vous. Maintenant, le numérique, le digital dans tout ça, c'est un accélérateur de la satisfaction du consommateur avec deux aspects. La compétitivité coût, parce qu'on va, grâce à ce numérique et à ce digital, on va pouvoir réduire les coûts de production de manière extrêmement significative. Et deuxième élément, évidemment, la compétitivité hors coût, c'est-à-dire se rapprocher des nouveaux besoins du consommateur, satisfaire ses besoins de solutions, des solutions santé, des solutions nutritionnelles, des solutions locales, locavores, des solutions esthétiques ou statutaires, etc., etc., etc. Le numérique étant un facteur de transformation pour rapprocher le consommateur du producteur, pour améliorer et rééquilibrer la relation producteur-transformateur-distributeur, et enfin pour changer les conditions de production, sans doute vers plus d'écologie. Certains parlent d'agriculture écologiquement intensive ou d'agroécologie. Le numérique sera d'autant plus nécessaire qu'il va permettre cette transition.
Oui, on verra justement les défis qui attendent le monde agricole. On sera tout à l'heure aussi avec le directeur d'une école à Beauvais, hein, qui forme des ingénieurs agronomes. C'est vrai que dans les défis, ils sont très nombreux, les défis environnementaux. Quand on prend par exemple Frédéric Simotel, elle est une moissonneuse connectée par exemple, très bien, qui va permettre de doser quelque part l'usage des fertilisants, l'usage des engrais. Finalement, il y a des parcelles qui en ont besoin, d'autres qui en ont besoin un petit peu moins, etc. Donc tout ça, on gagne du temps, on gagne de l'argent, et puis on ne pollue pas la planète bêtement. Hein.
On gagne du temps. En plus, aujourd'hui, les outils les outils graphiques de 3D, tout ça, enfin, donnent vraiment un rendu facilement compréhensible, parce qu'il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont avant tout agriculteurs. C'est pas non plus des ingénieurs. Il faut des tonnes de tableaux Excel. Il faut des choses simples, avec des choses
assimilables ou pas, hein,
assez vite. Voilà. Et puis autre chose, ce qu'il faut voir aussi avec la technologie, c'est que ça va améliorer aussi toute l'industrie, toute la filière. On a des industriels qui fabriquent des produits phytosanitaires, etc. Le numérique, ça va permettre d'améliorer leur R&D, l'innovation, d'aller plus vite, de faire de l'open innovation, ce dont on parle beaucoup dans le numérique. Ça va améliorer aussi cette traçabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait autour des pesticides, on veut davantage de transparence. Mais le numérique, ça va permettre aussi cette transparence. Donc c'est vraiment toute la filière. C'est pas uniquement le consommateur et l'agriculteur en bout de chaîne. Il y a vraiment toute la filière entre les deux qui vont bénéficier de cette avancée du numérique.
Michel Portier, quand est-ce que ça a démarré, cette révolution techno dans l'agriculture?
Oh, je crois que ça a démarré il y a déjà très très longtemps, hein, entre guillemets, mais l'agriculture a toujours été un petit peu, à mon avis, à la pointe de la technologie. Alors ça s'est énormément accéléré ces derniers temps. Et je rebondirai un petit peu sur les moissonneuses batteuses. Nous, chez Agritel, on est extrêmement intéressés par savoir ce qui se passe dans les moissonneuses batteuses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les moissonneuses batteuses vous donnent un rendement en temps réel. C'est-à-dire que quasiment en temps réel, puisque tous les jours, il y a une moissonneuse batteuse qui tourne quelque part dans le monde, quasiment en temps réel, si vous voulez, on peut collecter une estimation de récolte sur un pays donné. Lorsque vous avez les moissonneuses batteuses qui tournent en France au mois de juillet, au mois d'août, qu'elles sont interconnectées, on peut collecter toutes ces données, ces datas, faire une estimation de rendement, et c'est notre métier, essayer d'avoir une estimation de prévision
de prix. Ensuite, pour le marché. Voilà. Et ça part directement dans
Ça part directement, c'est ce qu'on appelle la collecte de data
tout
à
suite.
Ce moment-là.
Et les salles de marché, elles sont immédiatement informées.
On peut être immédiatement informé, effectivement, et avoir une estimation récolte, entre guillemets, qui vient directement de la machine à récolter, de la moissonneuse batteuse, pour essayer d'évaluer l'impact sur le marché.
Alors, Henri Isaac, Paris Dauphine, et ensuite Maximilien Rouer, allez-y.
Alors, je souscris au fait que les agriculteurs ont toujours été innovants. Les marchés à terme de céréales, c'est les agriculteurs qui ont mis ça en place à la fin du 19e siècle. Le Minitel a été un des premiers terminaux utilisés pour consulter la météo par les agriculteurs français. La Commission européenne a utilisé les satellites historiquement pour contrôler la distribution des subventions et des terres. Donc, ne considérons pas l'agriculture française comme en retard sur le numérique. Au contraire, elle est plutôt en avance. Elle a toujours été très utilisateur de ça. Donc, c'est plutôt un signe de confiance dans l'avenir, je crois, qu'on doit avoir quand on regarde l'agriculture française et la façon dont elle s'empare de ces outils.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on est sensibilisé partout, dans tous les élevages, sur tous les sites de production à ces technologies?
Il y a toujours des endroits où c'est plus développé que d'autres, mais globalement, quand on regarde, il n'y a que 12% des parcelles qui ne sont pas connectées en France, qui n'ont aucune couverture par aucun réseau. Donc c'est faible déjà, il y a des efforts à faire de ce point de vue-là, mais globalement, on sent que la profession agricole, elle s'empare de cette révolution technologique, parce qu'elle sent bien qu'on est à un moment où on l'a dit, on est dans une situation de crise, il faut en sortir, et c'est dans les moments de crise qu'on implante le futur. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'en France, il y a une vraie prise de conscience du potentiel de transformation lié au digital.
Maximilien Rouer, la révolution verte, elle fait place maintenant à la révolution numérique ?
Elle est indissociable de la révolution numérique. Elle va permettre, par exemple, si on prend la permaculture, qui est une approche globale de production de maraîchage, cette approche demande énormément de travail aujourd'hui, de travail humain. Avec les coûts sociaux du modèle social français, on a un petit problème fiscal. Voilà, tout simplement, comment payer les coûts sociaux. Et je vois de manière extrêmement claire comment le robot Naio, dont on parlait tout à l'heure, un robot de désherbage, pourra aider à la permaculture tout en facilitant cette approche très écologique de la production maraîchère. Mais un autre exemple. Quand on est sur un sujet émergent dans toute l'Europe, le bien-être animal, comment mesurer le bien-être animal ? Alors, on sait qu'on a une hormone, alors ça demande une prise de sang. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, prenons Terena, le co-auteur de mon livre, Hubert Garot, est le président de Terena. Il commercialise au Salon de l'Agriculture un matelas connecté. Terena,
c'est une coopérative de 25 000 agriculteurs.
Voilà, une coopérative de l'ouest de la France. Et il commercialise demain au Salon de l'Agriculture un matelas connecté pour les vaches laitières, pour mesurer le bien-être de cette vache par son agitation, par son... Un matelas connecté pour une vache laitière. Deuxième exemple, ils ont développé une appli à base d'une Google Glass, puisque vous avez utilisé le terme, une appli qui, en temps réel, permet de mesurer 68 points d'attention sur le bien-être animal. Voilà. Est-ce que l'œil coule? Est-ce que la peau tremble? Est-ce que la peau est rose ou rouge, tout plein d'éléments que le cerveau humain peut voir ou ne pas voir. Grâce au numérique, on va avoir un traitement direct de cette information. Alors, me direz-vous, oui, mais si c'est juste de l'éthique, déjà, c'est pas mal. Mais deuxième élément, en termes de coût, si un animal qui se porte bien est un animal qui est en bonne santé, qui est un animal qui produit bien, il produira bien du lait s'il se porte bien, s'il est en bonne santé, et accessoirement, il sera moins malade, donc on paiera moins de vétérinaires, moins de médicaments. Donc on voit, on a un écosystème intéressant, aussi bien éthique qu'économique, qui soutient et qui sous-tend cette approche numérique pour le bien-être animal, par exemple. Il existe une centaine d'exemples.
Génial, génial. Vincent Jamais, Avanciel.
Ouais, je partage complètement ce qui est dit et sur aussi l'ancienneté de l'utilisation du numérique dans le milieu agricole. J'ai souvenir que nous avons développé les premiers services numériques de saisie d'écarissage donc pour les animaux morts sur Minitel dans les années 80 et on était en partenariat avec Orange. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on n'est pas forcément dans une révolution, mais plus dans une accélération de l'utilisation du numérique, liée aussi au fait que les nouvelles technologies viennent de plus en plus vite sur les marchés. Et ce qui me semble intéressant, c'est que au-delà de l'agriculteur connecté qu'on peut connaître depuis un moment, aujourd'hui on va voir les agriculteurs connectés, c'est-à-dire que les données vont être aussi partagées entre les agriculteurs, et finalement on va disposer d'une communauté de personnes qui vont pouvoir s'entraider, partager des expériences, partager des bonnes pratiques, partager des résultats effectivement sur leurs exploitations, et donc finalement on va supprimer l'isolement de l'agriculteur dans son exploitation, et on va lui permettre effectivement d'aller beaucoup plus loin et de partager son expérience et du coup d'être évidemment plus compétitif, plus productif et peut-être aussi plus précis dans l'utilisation de ces technologies.
Frédéric Simotel.
Oui, on parle de l'avancée technologique des agriculteurs. Tous ces réseaux de capteurs utilisent par exemple, beaucoup d'entre eux utilisent le réseau Sigfox. Mm-hmm. Sigfox, c'est cette pépite française qui est un opérateur
de
parler entre eux. Ils n'attendent pas qu'il y ait de la 3G, 4G, 5G. Ouais. Non, on va installer ce réseau qui ne coûte pas cher, qui fonctionne très bien, et tous ces capteurs dont on peut parler, Isagri travaille avec une nouvelle station météo qui sera d'ailleurs présentée, Météus, qui sera présentée au sein de l'agriculture. Il y a une start-up qui s'appelle Winat qui fait des capteurs. Tout ça, il remonte ces informations par Sigfox. Et je pense qu'on pourrait faire le tour dans l'industrie de façon générale. Je pense que dans ce monde agricole, c'est une des premières applications de ce réseau Sigfox.
Maximilien Rouer.
Alors, je rebondis sur ce que disait mon voisin sur la connexion des agriculteurs.
Vincent Jamais, donc, Advantiel.
Advantiel, le point le plus important, ça va être aussi de connecter aux consommateurs. Le consommateur qui, depuis des années, est dans une défiance vis-à-vis des produits alimentaires, qui s'inquiète de ce qu'il a dans son assiette, on peut imaginer demain des webcams dans les élevages, des milliers de webcams dans les élevages, Pourquoi pas, puisque de toute façon les éleveurs sont fiers.
On a encore vu cette semaine des images épouvantables d'un abattoir soi-disant bio au Vigan dans le département du Gard. Très bien. C'est vrai qu'il y a une défiance, hein, c'est vrai qu'on nous... Mais qui aurait dit qu'il pouvait y avoir de telles images dans un abattoir bio, hein, voilà, très bien. Eh ben, il y a eu quand même, voilà, donc.
Et justement, il faut redonner la confiance pour un film comme ça. Il y aurait des centaines de films à côté qui seraient avec fierté et avec dignité. Et c'est cela qu'il faut montrer. Grâce au numérique, on va pouvoir rapprocher les consommateurs des producteurs.
Henri Isaac. Hein.
Et les consommateurs, quand ils n'ont pas l'information, ils cherchent à la créer aujourd'hui. Un mouvement comme Open Food Fact, où c'est des individus comme vous et moi qui vont rentrer les informations nutritionnelles des produits, démontre qu'on est à l'âge de la multitude, comme le dit Nicolas Collin, où c'est la foule et le consommateur qui s'emparent des technos pour justement créer aussi de la donnée sur la consommation alimentaire. Et sur les questions de traçabilité, il existe une start-up israélienne qui permet de tester des produits et de mesurer les pesticides ou les produits chimiques qu'ils contiennent. Et donc là, c'est pareil, il y a une espèce de crowdsourcing de la traçabilité qui est en train de se mettre potentiellement en place et qui amène, je crois, à d'autres relations entre, comme vous le disiez, producteurs, distributeurs et consommateurs, où le digital va permettre de repenser toute cette chaîne qui doit redonner plus de pouvoir et de pouvoir économique, finalement, aux agriculteurs, au final.
Encore un mot, hein, on parle beaucoup de techno, on va continuer, évidemment, à l'évoquer dans les décodeurs de l'écho. Alors, on a parlé de montres connectées, de colliers, également, qu'on pourrait mettre autour des animaux, de matelas connectés pour apprécier le confort animal. Pas que, hein, parce que sur un champ, on peut installer aussi des éoliennes, on peut installer des panneaux solaires. Donc là aussi, la filière agricole contribue quelque part à cette protection de l'environnement. Henri Isaac.
Oui, puis ça va encore plus loin. Il y a une start-up parisienne qui s'appelle Agricool, qui fait pousser des fraises dans des containers avec de l'énergie solaire et qui sont des fraises bio qui sont produites dans Paris. Donc on parle d'agriculture urbaine, très vertueuse d'un point de vue écologique. Et donc on voit bien qu'effectivement, il y a cette convergence de la révolution digitale, mais aussi le digital va permettre de mettre en place une autre type d'agriculture. On a parlé de l'enjeu climatique et le fait qu'on produise autrement, même y compris dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux agricoles comme la ville, et permettre... Voilà, une autre façon de produire plus près des lieux de consommation.
Bon, et on va voir dans un instant comment le monde agricole cherche à se bâtir un nouvel avenir, justement. L'agriculture, nouvelle terre d'excellence, c'est la question qu'on se pose ce soir avec les décodeurs de l'écho. Je salue Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech à BFM Business. Je lui donne rendez-vous, évidemment, samedi soir à 19h avec une grande partie de son émission 01 Business consacrée, justement, à l'agriculture. Pour en faire rentrer d'autres décodeurs, notamment Emmanuel Le Chypre. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Est-ce que l'agriculture, c'est la nouvelle terre d'excellence, justement, dans ce contexte de crise, de chute des revenus des éleveurs, des cultivateurs également, enfin certains, en tout cas, le gouvernement essaie de réagir, pousse la Commission européenne, on va entendre dans un instant Manuel Valls, et le Salon de l'agriculture qui démarre donc après-demain, Porte de Versailles, juste à côté de BFM Business, dans ce climat de tension. Mais justement, voilà, est-ce que c'est pas le moment de poursuivre le chemin vers la qualité, vers l'innovation, le digital. On en a parlé abondamment il y a quelques minutes encore, le numérique, à fond, à fond, à fond. J'accueille Emmanuel Le Chypre. Bonsoir, mon cher Emmanuel. Il connaît très bien les dossiers agricoles. Et puis également avec nous, Michel Dubois. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la spécialité agriculture à La Salle Beauvais. Donc, c'est une école pour ingénieurs agronomes. Justement, comment vous faites, comment vous incitez, comment vous faites travailler les élèves ingénieurs agronomes avec... le monde informatique, justement, la technologie pour les inciter, pour les pousser, justement, à prendre le cap du digital.
Alors, prendre le cap du digital, il suffirait de visiter notre école pour voir qu'on est déjà complètement dedans. Les salles informatiques, il y en a partout. L'apprentissage informatique, ça commence dès la première année, au sortir du bac. Ça continue jusqu'au bout. Et l'apprentissage de logiciels spécifiques en fonction des applications, ça, ils connaissent. J'ai entendu, justement, j'ai suivi l'émission, là, et j'ai entendu parler des drones en agriculture, du digital qui rentre dans l'agriculture. Les élèves chez nous savent tous ça. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que le digital, c'est très beau, et je suis pour puisque j'ai fait tout mon possible pour pousser dans cette direction depuis 6 ans. Mais il faut bien voir que l'important, c'est que ça se connecte bien avec les nouvelles pratiques agricoles.
Voilà, justement. Et on va voir quelles
sont... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est bien ce qui se passe, en plus.
On va voir justement dans un instant quelles sont ces nouvelles pratiques agricoles. Ah. Hein, dans ce contexte de crise, et je vous le disais, donc le Premier ministre, c'était à 18h, hein, c'est pour ça qu'on l'évoque aussi ce soir, hein, c'était à la une de l'actualité, recevait donc le commissaire européen Phil Hogan, hein, justement, dans ce contexte, avec la chute des revenus, des agriculteurs, ces manifestations, ces tensions. On a même vu le domicile de Stéphane Le Foll, un petit peu envahi par des jeunes agriculteurs il y a quelques jours, donc du côté du Mans, dans le département de la Sarthe, hein, avec Manuel Valls qui somme la Commission européenne d'agir. Il lance un appel à la Commission. On écoute le Premier ministre.
L'Europe connaît déjà suffisamment de crises et de défis. Menaces terroristes, crise des réfugiés. Il ne manquerait pas que se rajoute une crise agricole majeure qui mettrait en cause le projet européen. Et nous ne le voulons pas. La Commission doit prendre pleinement toutes ses responsabilités. Elle doit jouer de son pouvoir d'initiative et faire maintenant des annonces fortes, prendre des décisions, ne pas perdre du temps. Et elle doit pouvoir le faire lors du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture le 15 mars. La France a remis au commissaire ses propositions. C'est le moment donc de prouver que les dispositifs existants fonctionnent. La Commission doit s'en emparer très rapidement, comme elle l'a fait au début de l'embargo russe, mais cette fois de façon adaptée au niveau de l'ampleur de la crise.
Alors ça, c'est gérer le quotidien. Oui, il y a une crise qui est grave, hein, justement. Manuel Valls a bien insisté, on ne laissera pas tomber les agriculteurs. Maintenant, comment le monde agricole cherche-t-il à bâtir un nouvel avenir, justement, ce que nous disait Michel Dubois, il y a une nouvelle façon de fonctionner désormais pour l'agriculture. Maximilien Rouer, auteur des Agriculteurs à la reconquête du monde. Ce que vous dites, c'est que une nouvelle ère pour l'agriculture, c'est possible.
Exactement. Alors, c'est avec Hubert Garot, président de Terena, ça a son poids, puisqu'il est aussi agriculteur éleveur. Donc on part des raisons d'espérer. On en a identifié une bonne dizaine, voire une centaine in extenso à la fin. Les raisons d'espérer, c'est la France est... Tout d'abord, la France a un territoire extraordinaire, un territoire d'histoire agricole et un territoire fait de diversité climatique, pédologique et topographique. Ça, c'est une première valeur qui fait que quand on parlera de diversité des consommateurs, on pourra satisfaire à l'ensemble de ces diversités de consommateurs parce qu'on peut produire, et c'est assez exceptionnel au niveau mondial, à peu près tout ce qu'un consommateur souhaite. Premier élément. Deuxième élément, évidemment, l'image positive de la gastronomie française ou de la marque France, un peu partout dans le monde. Et ça, on peut aussi se l'asseoir. Troisième point, évidemment, la dimension étonnante de l'agro-industrie. Nous avons une forte agro-industrie française avec des champions que peu de monde connaissent. Si je vous dis Agrial, si je vous dis Terena, Vivesia, Sodial, sans doute que ça vous dit...
Tereos dans le sucre aussi.
Tereos dans le sucre, voilà, sont des acteurs qui pèsent autant que des acteurs du CAC 40 et qui sont beaucoup moins connus.
Des milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année.
Des milliards, 4, 5, 6, 7. Et la grande distribution, alors que ce qui est souvent stigmatisé, surtout ces derniers temps, mais une grande distribution française pour une agriculture française, c'est pas tout à fait anodin. Imaginez si nous avions une grande distribution américaine ou chinoise, on aurait un peu de difficulté à discuter avec eux.
Ouais, Emmanuel Le Chiff, vers quoi doit évoluer l'agriculture française? C'est quoi le bon modèle, justement?
Alors, c'est compliqué parce que, en gros, alors il y a une espèce de j'appelle ça une tarte à la crème, hein, que tout le monde évoque, c'est cette idée d'agriculture écologiquement intensive. Voilà, donc ça, c'est la direction vers laquelle tout le monde veut aller. Alors l'idée, elle est intelligente, effectivement, c'est de dire, voilà, jusqu'à maintenant, on avait une agriculture qui était très riche en intrants et pas si riche que ça en connaissances. Aujourd'hui, avec tous les progrès qu'on va faire avec le numérique, avec toutes les données qu'on va pouvoir monopoliser, tout ce qu'on va apprendre, on va vers une agriculture qui sera moins riche en intrants et beaucoup plus riche en connaissances. Et donc, effectivement, moi, il y a une partie des conclusions du livre que je partage tout à fait, c'est-à-dire cette idée qu'on va aller vers une agriculture qui va être quand même beaucoup plus efficace, qui va donc permettre des coûts de production plus bas, et un coût pour l'environnement aussi plus bas, ça c'est tout à fait possible. Après, on comprend aussi que l'arbitrage qu'on a un petit peu en tête, qui est de dire d'un côté, en gros, il va y avoir la stratégie de la niche à très haute valeur ajoutée avec des productions de grande qualité, et de l'autre côté, la production ultra intensive, quasi industrielle. Je pense que ça, c'est un modèle qui ne verra pas le jour. C'est-à-dire que ça n'est plus comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que avec toutes ces outils que les technologies de la connaissance vont permettre, la mise en réseau, etc., on va avoir tout un panachage possible de combinaisons. En gros, il n'y aura pas la ferme des 1000 vaches, oui, mais il y aura peut-être une façon de faire travailler ensemble
plusieurs élevages,
plein d'élevages de 20, 50
20 voisins,
qui
oui,
travailleront ensemble, etc. Donc je pense qu'on va vers des panachages beaucoup plus variés de modes de production, sachant qu'il y aura un effort après que tout le monde doit faire et qui n'est pas fait suffisamment aujourd'hui, c'est la relation avec le consommateur.
On va y revenir. On va y revenir, bien sûr. Ouais. Ouais, le consommateur, un agriculteur nourrissait 10 personnes en 1936, il en nourrit désormais 6 fois plus, 60. Hein. Le thème de l'agriculture et de l'alimentation responsable, c'est à la une du Salon de l'agriculture cette année. Dans votre école, l'école de Beauvais, Michel Dubois, que vous dirigez, quel modèle d'agriculture enseigne-t-on ? C'est quoi ? C'est la fin du rendement à tout prix ?
Alors nous, on a pour principe d'enseigner une agriculture laïque. Laïque,
alors,
qui veut dire l'agriculture pour tous.
D'accord.
C'est-à-dire, autrement dit, on n'a pas de religion sur l'agriculture, on n'a pas de croyance spécifique sur qu'il faut faire ceci ou faire ça. Il y a des bases d'agronomie fondamentale qu'il faut connaître. Donc, d'un certain sens, c'est un retour profond et complet à l'agronomie et à la compréhension de comment fonctionne une exploitation agricole. Ensuite, si les agriculteurs, c'est eux les responsables. Si on a formé des gens qui sont vraiment capables de prendre des décisions, qui comprennent vraiment comment les choses fonctionnent et qui ont un esprit d'entreprise, je pense que vous associez les nouvelles technologies, la compréhension de ce que c'est que le vivant et comment on peut travailler en alliance avec le vivant plutôt que, comment dirais-je, lui imposer une structure de type para-industriel, hein, si on est capable de travailler en alliance et qu'en même temps on a un esprit scientifique et technique, là, et qu'on est innovant, ben, on va pouvoir créer plein de choses. C'est-à-dire que chaque exploitation agricole pourrait potentiellement devenir différente. C'est pour ça que quand je vous ai entendu parler de la diversité et de la variété...
Oui, oui.
Moi, je pense
pas de modèle. Par exemple, si je vous dis l'agroécologie, c'est ce que c'est le modèle de l'avenir? Vous me dites quoi?
Non. Je dis que l'agroécologie est plurielle.
Oui, c'est ça.
Voilà. Parce que je pense pas que si vous appliquez l'agroécologie dans les Ardennes, dans le Massif central ou dans la Beauce, ce sera la même chose.
Ouais. Henri Isaac, vice-président de la transformation numérique à Paris Dauphine, l'université Paris Dauphine.
Alors moi je pense que dans le livre blanc qu'on a construit avec Renaissance numérique, ce qui nous a beaucoup marqué sur les questions de formation des agriculteurs, c'est que le lien avec le consommateur les amène quand même à maîtriser des aspects de commercialisation et notamment des aspects de digitalisation sur les circuits courts qui aujourd'hui font un petit peu défaut, nous semble-t-il, dans le système de formation globale d'un agriculteur qui est très bien formé, comme vous l'avez fait, sur la partie production, et que sur la partie circuit et distribution, il y a, me semble-t-il, des adaptations de parcours à faire pour que les agriculteurs soient en mesure de mieux dialoguer avec le consommateur, qui sache que c'est que un site web, ce que c'est que des drives, comment on peut mettre ça en place, comment on va dialoguer. Et là, dans la mise en place de certains circuits de distribution, les agriculteurs peuvent récupérer une partie de la valeur, me semble-t-il, et que là, il y a un accompagnement à faire qui me semble nécessaire.
Ouais, c'est vrai, Maximilien Rouer, ce que vient de dire Henri Isaac, c'est vraiment peut-être le problème actuel dans les récriminations des agriculteurs. On entend tout le temps dans les reportages, il y a souvent le déséquilibre des ressources, des revenus entre les producteurs, les agriculteurs hein, sur le terrain, les transformateurs, ensuite les industriels, et puis, bon, évidemment, après le consommateur qui doit aussi avoir son mot à dire.
Alors,
comment on rétablit cet équilibre?
Un chiffre qui va dans votre sens... 30% des investissements sont faits par les agriculteurs, 8% des revenus sont perçus par les agriculteurs. Voilà les ordres de grandeur.
Rappelez-le nous donc.
30% des investissements sont faits par les producteurs, les agriculteurs, et 8% des revenus.
Seulement leur reviennent.
Donc on voit bien qu'il y a un petit déséquilibre, petit. Donc sans doute à l'origine, à une des origines de la crise actuelle. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'agriculture écologiquement intensive, sa forme plurielle, sa forme fédérative. Michel Griffon a pensé cette approche-là à partir des années 2000 et 2007. C'est une alliance avec la nature, vous l'avez dit. Ce qui m'intéresse de dire, c'est que dans cette alliance avec la nature, on va chercher à répondre à l'ultra-segmentation apportée par le numérique du consommateur. C'est-à-dire, grâce au numérique, le consommateur peut exprimer sa différence. Ce n'est plus un produit pour tous, c'est un produit pour chacun. Et dans cette transformation majeure de la multitude, un produit pour chacun, la transformation des pratiques agricoles va permettre de satisfaire cette multiplicité, cette diversité de besoins. Et je reboucle sur la force de la France d'avoir des terroirs, des territoires et une histoire agricole qui va lui permettre de satisfaire à l'ensemble de ses besoins des consommateurs.
Michel Portier est avec nous, directeur général d'Agritel, société de conseil sur les marchés. Il est aussi lui-même cultivateur dans le département de l'Oise. Comment vous travaillez, vous, avec les différents acteurs de la filière, la distribution, la transformation, les industriels, et puis quel rôle doit jouer le consommateur dans cette transformation ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un grand rôle que doit jouer le consommateur, mais je crois que l'agriculteur a un rôle à jouer. C'est-à-dire que l'agriculteur, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un agronome. Je crois que l'agriculteur, il doit s'emparer de tout un tas de domaines de compétences qui doivent lui appartenir et qui lui ont échappé.
C'est un entrepreneur, c'est un bosseur.
Il a une responsabilité sociétale, il a une responsabilité environnementale. Et je veux dire, le fait d'avoir pas suffisamment pris à temps ou laissé à des politiques, le rôle à l'environnement est une erreur par définition. Je crois qu'il faut absolument que l'agriculteur recapte un petit peu tous ces domaines de compétences qu'il a. Il est pluridisciplinaire, l'agriculteur. Il est pluridisciplinaire et c'est ce qui fait le charme de son métier. Et il doit effectivement recapter un petit peu tout ce qui va toucher au consommateur. Il doit apprendre à vendre, ça je suis d'accord aussi. Il doit apprendre à mesurer le besoin du consommateur pour répondre à son besoin. On produit pas, puis après, on regarde ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, on doit répondre à une demande. D'abord, pour répondre à la demande, il faut l'identifier. Donc, identifier la demande, et puis élargir son champ de compétences, y compris sur l'environnement.
Alors, Michel Dubois, de l'école d'ingénieurs agronomes à Beauvais, et ensuite Emmanuel Le Chypre.
Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc une formation d'ingénieur en agriculture ou en agronomie, de manière générale, c'est une formation extrêmement complexe. Beaucoup plus complexe qu'une formation d'un ingénieur dans la plupart des métiers d'ingénieur.
J'ouvre une parenthèse, il y en a 13 000 qui ont choisi, plus de 13 000 en France qui ont choisi à la rentrée.
Oui, je sais.
La filière d'ingénieur, je sais que vous savez, aux spectateurs et aux auditeurs, non, je vous apprends.
Pardon. Oui, il y a une demande croissante, mais je pense que ce qui les intéresse, c'est le fait ils sentent que la nature, c'est quand même complexe. Il y a une attirance vers la nature, mais il y a une attirance vers la complexité de ce métier. Et c'est vrai que
malgré
c'est Superman.
Voilà, malgré...
Non, mais l'agriculteur futur qu'on attend, c'est un peu Superman, parce qu'il va falloir qu'il soit très bon au niveau ingénierie agricole, très bon au niveau de tout ce qui est agro-machinisme, parce qu'il utilise des machines. Il va falloir qu'il connaisse le numérique, il va falloir qu'il associe tout ça, il va falloir qu'il connaisse les marchés, il va falloir qu'il sache que ce soit un négociateur, qu'il soit vraiment à l'écoute des marchés aval et voir comment ils évoluent, sentir la consommation. Il va falloir qu'il soit aussi un négociateur institutionnel, parce qu'il faut qu'il fasse partie des institutions. Il faut qu'il soit l'apprenne à collaborer. C'est idéal que les agriculteurs, évidemment, soient dans des coopératives, mais aussi, ça peut être un travail par 2, 3, 5, 10, qui s'organise, parce qu'on peut faire des investissements collectifs, en fait, etc. Donc c'est quand même... C'est en fait un dirigeant d'entreprise qui est en même temps un conducteur de travaux et en même temps celui qui regarde vraiment tout ce qui se passe, idéal, tout ce qui se passe au niveau technique, qui est au courant des évolutions techniques, parce que ça évolue très très vite actuellement. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu Superman quand même, quelque part qu'on attend.
C'est ça, ouais. La place de l'agriculteur dans la société, Emmanuel.
Bah, oui, en plus là-dedans, il manque une dimension qui est la dimension de celui qui raconte une histoire. Ouais. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens sont en quête de sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un tiers des nouveaux agriculteurs qui s'installent qui sont des gens qui viennent
de la ville,
ouais. Qui ne sont pas issus de milieux agricoles. Ah ouais. Et ça veut dire quoi ? Et c'est 30%, c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Ça veut dire que dans ce rythme-là, dans 10 ans, il y a un tiers des agriculteurs qui ne seront pas issus de familles agricoles. Et pourquoi ces gens se lancent dans l'agriculture ? C'est parce qu'ils cherchent du sens. Ils ont envie de faire des métiers qui donnent des choses. Et les consommateurs aussi, ils cherchent du sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la valeur, elle est là. La valeur, elle est dans la capacité que le paysan aura à raconter une histoire. Alors, vous voyez bien, quand vous êtes en train de faire vos courses, l'histoire qu'on va être capable de vous raconter sur tel ou tel produit, c'est un argument majeur pour faire de la valeur et faire du prix, entre guillemets. Moi, je suis le premier à acheter une belle histoire sur un produit, comme tous les consommateurs. Et vous aurez la capacité de savoir, un, ce que veulent les consommateurs, et deux, comment leur raconter l'histoire. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément de la chaîne de valeur que le paysan doit être capable de capter. Je vous prends juste un exemple. Regardez, par exemple, ce qu'ont su faire certains ostréiculteurs en vendant leur marque, leur propre marque. Alors, je ne sais pas si on peut les citer ici, par exemple, mais des Gilardeau, par exemple.
Bah, c'est la meilleure.
Vous les payez. Ouais, bah, vous dites c'est la meilleure, mais.
Non, c'est pas vrai.
Franchement, est-ce que si je vous les fais goûter à l'aveugle, vous serez capable de faire la différence? Eh bah, ben, ça n'empêche que monsieur Gilardeau, il a réussi à vous raconter une histoire. Ouais, sûr, ouais. Et ça vous ferait. Ah, oh, ouah, des Gilardeau. Ah, oh, formidable. Eh ben, ça. N'empêche qu'au final, combien coûtent les Gilardeau ?
Cher.
Elles coûtent 50% plus cher que les autres. Mmh. Voilà. Et donc, c'est typiquement ce que doit réussir à faire l'agriculteur aussi demain. J'aime bien le mot de paysan, moi.
Oui, mais c'est bien. Oui, bah, c'est pas un péjoratif. Bien au contraire, soyons-en fiers. Hein. Vincent Jamais, directeur du développement d'Avanciel, qui va nous quitter, qui va retourner à Laval, justement, qui fabrique des lunettes connectées, des montres connectées, justement. Oui. Cette transformation, cette mue, puisque vous vivez à Laval, donc dans le département de la Mayenne, département aussi agricole, elle se fait aussi avec le soutien de la population. Il y a une énorme cote de popularité pour le monde agricole.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une grosse cote de popularité pour le monde agricole et je partage complètement l'idée que l'agriculteur demain devra raconter une histoire.
C'est ce que disait Emmanuel.
Ouais. Ouais, absolument. Et donc se transformer réellement en entrepreneur et en chef d'entreprise, parce qu'il doit aussi de plus en plus gérer des salariés. Et on le voit, un agriculteur qui doit être formé, qui doit aller à des conventions pour découvrir aussi des nouveaux usages, doit pouvoir aussi être remplacé sur son exploitation. Donc finalement agir comme patron d'entreprise. Et je pense qu'au-delà de la formation initiale, il y a aussi un accompagnement et peut-être il faut que l'État aussi aide les agriculteurs et les organismes qui vivent dans la filière agricole à accompagner ces formations qui sont des formations tout au long de la vie de l'agriculteur, parce que les nouvelles technologies c'est bien, mais si vous ne savez pas les utiliser, finalement vous allez avoir un outil extrêmement puissant, mais vous n'allez pas en tirer le plein parti. Et nous on le voit régulièrement, on est au contact des agriculteurs sur le portail Agranet qui permet effectivement à l'agriculteur de saisir ses activités au quotidien et on est régulièrement en interaction avec eux pour leur expliquer comment ça fonctionne, quels bénéfices ils ont et je pense que cette formation continue, cet accompagnement finalement permanent est nécessaire pour que les agriculteurs soient extrêmement
performants. Alors un mot chacun, Henri Isaac et Emmanuel Le Chip, et on va se retrouver dans un sens, je pense qu'on va y consacrer la dernière partie, c'est tellement passionnant, on va rester sur le domaine de l'agriculture. Terre d'excellence. Allez, Henri Isaac, Paris-Dauphine, vous resterez avec nous justement.
Nous, ce qu'on a constaté, c'est que justement, le numérique, il permet de sortir de son isolement l'agriculteur. Et il y a des communautés d'agriculteurs qui, en ligne, partagent leurs pratiques, échangent leurs données, exactement, analysent leurs données. Et donc là, on a plutôt quelque chose où on va pouvoir travailler en mode collaboratif. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et sur la connexion aussi aux consommateurs, j'ai été frappé par un viticulteur qui dialoguer dans le monde entier avec ses consommateurs de Beaujolais. Et là, le lien aussi se fait avec le consommateur, mais avec ses collègues. Et je crois que là, on ne peut plus raisonner sur un entrepreneur isolé dans le monde agricole. C'est terminé.
Allez, un mot court.
Eh ben, c'était exactement ce que je voulais dire. C'est un concept qui se développe beaucoup. Ça s'appelle l'interpreneuriat. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette capacité à aller chercher en dehors de son entreprise des compétences, à les faire travailler ensemble. Et effectivement, quelqu'un qui a une bonne expérience commerciale pourra, à certains moments, faire autre chose, compter sur les voisins, compter sur l'exploitation d'à côté. Ce sont des nouvelles formes d'organisation beaucoup plus informelles, beaucoup plus souples qui vont émerger, mais qui peuvent donner toute leur efficacité dans l'univers agricole.
Bon, alors, y en a un certain nombre qui vont nous quitter, d'autres qui vont rester. Je salue Michel Portier, donc directeur général d'Agritel. Henri Isaac, il reste. Michel Dubois, il reste. Maximilien Rouer, il reste. Vous, Vincent Jamais, bon retour à Laval, donc directeur. directeur du développement d'Advanciel. Et puis bon salon de l'agriculture avec toutes vos trouvailles. Emmanuel Lechypre, à très bientôt, mon cher Manu. Bonne soirée. Allez, on continue. Hein, l'agriculteur, nouvelle terre d'excellence. Et on continuera à vous raconter des belles histoires, justement, sur ce milieu. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, gros plan sur l'agriculture, donc dans ce contexte de tension, hein, de baisse de revenus, de manifestations, et puis l'ouverture, après-demain, donc, du salon de l'agriculture, ici, Porte de Versailles, à Paris, juste à côté des studios de BFM Business. On verra, justement, eh bien, quelle sera l'ambiance, notamment avec les politiques. Vous avez entendu tout à l'heure Manuel Valls disant que la crise était grave, hein, lancer un appel à la Commission européenne pour, justement, qu'elle vienne soutenir les agriculteurs français. Oui, des agriculteurs, eh bien, qui innovent, qui font le choix du digital, du numérique, de la qualité. C'est pour ça qu'on se pose cette question ce soir. Est-ce que l'agriculture est la nouvelle terre d'excellence? On est toujours notamment avec Maximilien Rouer. Maximilien Rouer, qui est avec nous, expert en stratégie agricole, co-auteur de « Les agriculteurs à la reconquête du monde », justement. Des agriculteurs qui sont multicartes, hein, on le disait il y a un instant, qui sont des entrepreneurs, qui sont des investisseurs, qui sont des gros bosseurs également, qui doivent connaître toute la filière qu'enseigne notamment Michel Dubois dans son école à Beauvais, son école pour ingénieurs agronomes. Ce sont des supermans, c'est le terme qui a été utilisé. Vous dites oui ?
Alors, je dis oui sans y croire, tout en y croyant, c'est-à-dire quoi ? Y a une dimension essentielle qui est, on peut pas charger éternellement et infiniment un homme. Donc la bonne nouvelle, c'est que la solution existe concomitamment, c'est le numérique, on l'a dit. Il faut bien voir que demain, l'exploitation agricole, la ferme, sera un peu une plateforme ouverte, comme le terme c'est souvent la mode, une plateforme ouverte. Et finalement, demain, il y aura des urbains, des étudiants, peut-être des retraités, peut-être des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, qui contribueront à la performance de l'exploitation grâce au numérique. On a vu les drones en début d'émission. Peut-être que demain, ce seront des étudiants entre deux cours qui piloteront les drones à la place de l'agriculteur qui, pendant ce temps-là, pourra se consacrer à la valeur ajoutée de son exploitation. C'est pour ça que le mot de Superman est à la fois vrai et faux. Vrai parce qu'il devra assumer en toute responsabilité les évolutions de son métier. En revanche, il pourra s'appuyer sur la multitude, cette multitude qui pourra être à côté de chez lui en tant qu'agriculteur, ou beaucoup plus éloigné, à la ville, à 100 km, voire à 2000 km de là, et qui pourra contribuer en tant qu'investisseur, en tant que travailleur partiel via le numérique, etc., etc. C'est une dimension essentielle qui nous permet de voir l'agriculture en terre d'excellence, parce qu'elle va pouvoir reconnecter les n'importe quel actif ou même inactif de la société avec l'agriculteur.
Oui, et tout ça évidemment en s'intégrant dans une chaîne, hein, on le disait, donc avec les producteurs, les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, le consommateur, n'oublions pas le consommateur justement qui aura son mot à dire, grâce notamment eh bien au digital, grâce au numérique. Alors justement, oui, la crise des éleveurs de porcs, on le voit, donc ils manifestent, qui sont dans une détresse absolue avec leurs revenus qui chutent, il y a des suicides également, il y a des fermetures d'exploitation. Intermarché et Agro-Mousquetaires qui ont décidé aujourd'hui de mettre en place un nouveau mécanisme de rémunération des éleveurs porcins en garantissant quelque part un prix qui pourrait aller jusqu'à 1,50€ le kilo. Comment justement, Thierry Cotillard, il s'en expliquait sur BFM TV tout à l'heure.
L'idée, c'est que en ayant la totalité de la maîtrise de la chaîne, c'est qu'évidemment, on ne répercute pas cette hausse. Donc, ce qu'on souhaite...
Vous réduisez les marges, quoi.
Voilà, on va faire des efforts de marge dans notre abattoir et dans nos exploitations pour qu'évidemment, ce ne soit pas le consommateur qui, en bout de course, paye cette meilleure rémunération pour nos agriculteurs.
Ouais, mais alors ça peut durer combien de temps? Ça peut tenir combien de temps? Voilà, Thierry Cotillard, le PDG d'Intermarché qui était sur BFM TV, c'est pas un petit peu artificiel? Allez, Henri Isaac avec nous, donc vice-président de la transformation numérique à l'Université de Paris-Dauphine.
Bah, Intermarché, c'est pas un distributeur comme les autres, parce que c'est aussi un producteur. Agro-Mousquetaires, c'est un des plus gros, c'est le cinquième groupe agroalimentaire français de mémoire. Et donc, il occupe une place dans le paysage particulier. On a mentionné dans la première partie du débat le rôle particulier des distributeurs français. Mais effectivement, je pense que Intermarché, c'est un groupe très particulier dans le paysage qui peut prendre des engagements que d'autres distributeurs ne prendraient peut-être pas. Et qu'ils ont une responsabilité, on a parlé de responsabilité sociale, ça fait partie des distributeurs qui comprend bien que son rôle doit lui aussi évoluer. dans cette nouvelle organisation des circuits qui va de la production à la consommation, les distributeurs, ils sont aussi concernés par cette transformation.
Est-ce du monde qu'ils jouent tous le jeu ou pas?
Je pense qu'il y a des pratiques.
Compte tenu du fait que le consommateur, bah, il demande aussi des prix très très bas. Alors après, il faudra convaincre le consommateur qu'un prix très très bas n'est peut-être pas forcément symbole de qualité. On verra ça. On pourra en parler évidemment à l'infini hein, de cette notion. Mais est-ce que le distributeur, lui, il joue le jeu vraiment toujours?
Mais est-ce qu'il a le choix? À partir du moment où le consommateur est drivé et piloté uniquement par le prix bas, on a un problème. Alors la bonne nouvelle, c'est que le consommateur, d'après Kantar, a tendance à finalement aller chercher autre chose à côté du prix. Donc le prix, oui, mais de la qualité. Donc ça, c'est l'évolution très récente, très très récente, mais qui est porteuse d'espoir et qui nous permet de penser qu'effectivement, il va y avoir une évolution du comportement d'achat du consommateur et donc une sortie pour le distributeur par le haut. Parce que le distributeur aujourd'hui, c'est quand même son client, c'est le consommateur. Et si son client dit « je veux le moins cher », il est un peu dans une impasse.
Évidemment. Donc, Henri Isaac.
Oui, alors il y a deux constats. D'abord, les distributeurs français commencent à comprendre que le circuit court s'impose dans pas mal de produits et dans certaines populations, et parmi les populations urbaines, on va dire les plus aisées. Donc, ils pourraient perdre une partie de leur clientèle qui a le portefeuille le plus garni. Donc ça les inquiète, et certains commencent à réfléchir à comment finalement réintégrer du circuit court dans leur logique de distribution et de travailler autrement avec les agriculteurs.
En misant sur le local. Hein,
voilà. Exactement. Donc on voit bien que le locavore, qui n'est pas la réponse globale, on l'a dit dans la première partie de l'émission, il y aura différentes formes. Le circuit court et le locavore, ça sera une partie de la réponse. Mais le deuxième
aspect... Vous mettez dans le terme locavore, là
C'est une consommation de produits dans un certain rayon autour de là où j'habite pour... favoriser le développement d'une agriculture locale. C'est le modèle, par exemple, que développe la ruche qui dit oui. Et la ruche qui dit oui...
C'est quoi la ruche qui dit oui?
La ruche qui dit oui, justement, c'est une forme de circuit court dans lequel, justement, un consommateur peut ouvrir une ruche, donc agréger une demande au niveau local, se mettre en contact avec les agriculteurs, ce que permet la plateforme. Et donc, là aussi, le consommateur devient acteur de la distribution, et donc, on réduit le coût. Et de cette façon-là, on a d'autres formes de distribution que... On l'on voit se mettre en place, qui sont aidés par le numérique, mais dans lequel le consommateur joue un rôle complètement nouveau parce qu'il devient aussi une sorte de distributeur.
Michel Dubois, directeur de la spécialité agriculture, l'école de Beauvais, l'école d'ingénieurs agronomes. Quelle part de vos ingénieurs agronomes part ensuite dans les exploitations, sur le terrain, justement? Ils ont envie d'y aller?
Alors, ils vont depuis l'exploitation agricole jusqu'aux grandes surfaces, hein, jusqu'à la distribution. Je crois qu'ils vont dans tous les métiers. Alors, au niveau agriculteur proprement dit, nous on vient de franchir pour la première fois en première année, hein, d'entrée au sortir du bac, le seuil de 50% d'enfants d'agriculteurs qui viennent dans notre école.
Avant c'était combien?
Il y a 6 ans, c'était 30.
Ah oui, d'accord.
Donc il y a une montée d'enfants d'agriculteurs et qui sont, dans l'écrasante majorité d'entre eux, intéressés à reprendre une exploitation agricole ou à créer une activité agricole.
Il y a de moins en moins d'exploitations en France. Il y a 500 000 d'exploitations en France. Il y en avait deux fois plus il y a 20 ans, justement.
Mais justement.
Les petites exploitations disparaissent, celles des grandes augmentent. Hein. Idem pour la taille. Hein.
Et donc, si les grandes augmentent, on a parlé de la complexité du métier d'agriculteur. Et le numérique, si je suis d'accord avec vous, s'il permet de simplifier certaines choses, exige des nouvelles compétences quand même. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'agriculteurs de plus en plus compétents. Je pense que, tel qu'on est parti, on va avoir pratiquement 25% à 30% d'une promo qui s'installera dans le métier d'agriculteur. Pas immédiatement sortir,
oui,
mais dans les 10 ans qui viennent. Alors, c'est beaucoup quand même.
La suite, justement, on a beaucoup parlé de numérique, on a parlé également d'entrepreneuriat, d'innovation. Le choix de la qualité également. Je voyais la semaine dernière dans l'hebdomadaire Le Point, ce reportage sur Nicolas Braille, qui élève des cochons de lait à Saint-Maurice de Navacelles sur le Larzac. Il les nourrit avec des céréales haut de gamme, cultivées en agriculture biologique. Alors au final, on a un bon produit haut de gamme, qui se vend cher, hein, qui se vend chez Ducasse, qui se vend chez Marc Vera, qui se vend dans les plus grands palaces. 450 € pour les plus belles pièces de 20 kilos. Il fait du saucisson haut de gamme, de 20 à 50 € les 200 ou 600 grammes. Voilà le porcelet du Larzac qui va sur les grandes tables. C'est une évolution, j'allais dire, qu'on peut suivre ou ça reste quand même un exemple marginal, ça, à votre avis, Maximilien Rouer?
Alors, il faut avoir en tête que depuis l'invention de l'hypermarché en 1968, il y a eu un modèle qui était le volume-prix. Et le consommateur allait chercher le prix, le prix, le prix. Tout ça bascule un peu au mi-temps des années 80, quand le pouvoir d'achat augmente et que les premières crises sanitaires apparaissent, notamment le veau aux hormones. À partir de là, le consommateur, à côté du prix, va chercher autre chose. Et aujourd'hui, avec le numérique, il peut enfin avoir ses vœux réalisés. Il peut avoir cette autre chose, ce qui peut être de la santé, qui peut être de la qualité, telle que vous en parliez tout à l'heure, à 450 €, qui peut être... Cette diversité-là, on y a accès. Ce qu'il faut, c'est ne pas chercher à la camisoler, à l'embrigader ou à la refermer sur quelque chose.
Avoir un seul modèle, quoi.
Pas un seul modèle.
Je disais tout à l'heure, Michel Dubois, qui fait de l'enseignement laïque, c'est-à-dire sans religion. Voilà, on ne dit pas, c'est tel modèle d'agriculture en France. Il y en a plusieurs, c'est la diversité.
Oui. En revanche, on sait qu'il y aura un contrôle global sur l'écologie. Il va falloir que l'agriculture de demain soit beaucoup plus alliée à l'environnement, alliée à l'écologie, alliée au climat que contre elle.
Ah oui.
Sinon, elle ne survivra pas.
Oui, et ça vient de là aussi, cet engouement pour le bio. Ça tombe bien, aujourd'hui, on avait les chiffres de 2015 révélés par l'Agence Bio, qui est l'organisme qui supervise un petit peu toute cette filière. Les cultures certifiées bio, plus 17% en France, 1 300 000 hectares. Alors ce ne sont que 1 300 000 hectares, c'est moins de 5% de la surface agricole totale. On est le troisième pays européen, derrière l'Espagne, derrière l'Italie, devant l'Allemagne. On voit de plus en plus d'agriculteurs, il y en a eu plus de 2000 l'an dernier, qui ont converti leur exploitation en bio en 2015. Il y a 30 000 fermes bio en France. Pourquoi ce choix du bio, Michel Dubois?
Le choix du bio, alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'était que la relation à l'environnement, le bio à l'origine, la problématique c'était la relation à l'environnement. Puis il y a eu un dialogue, si je puis dire, avec les problématiques de santé,
De scandale aussi, voilà, bien sûr,
scandale. Et mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le bio se met des contraintes qui peuvent paraître difficiles en termes de production, parce que globalement, à partir du moment où vous faites du bio, vous avez peu de chances d'arriver au même rendement immédiat.
Prenons un exemple. Dans le secteur du lait, le prix de vente, c'est 430 € la tonne, quand dans le classique, le conventionnel, c'est moins de 300 €. Voilà, c'est une fois et demie plus.
Mais c'est normal. Mais d'un autre côté, ça exige des trésors d'innovation, parce que moi, ce qui me frappe maintenant, c'est que quand on voit non pas juste un agriculteur, mais quand on voit les magasins qui vendent des produits bio, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une variété de produits. Il y a des produits assez innovants, assez originaux, qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces classiques. Donc ça veut dire, et ça me rappelle une théorie de Valérie, du philosophe Valérie, quand on met des contraintes, on peut être plus créatif. Et les premiers robots de sarclage, les premiers robots derrière l'agriculture végétale, ils sont arrivés dans le bio.
Dans le bio, oui. Et du coup, est-ce qu'un agriculteur bio s'en sort mieux ou pas, à votre avis, Maximilien Rouer?
Économiquement, est-ce qu'on compte en chiffre d'affaires ou en marge la performance d'une exploitation? Défauts un peu historiques de l'exploitation agricole, ça a souvent été de compter en chiffre d'affaires. Quand on a des intrants qui coûtent, peut-être que la marge ne va pas très très bien. Donc une des grandes évolutions ou des grandes révolutions en cours, c'est de passer du chiffre d'affaires à la marge. Ce que j'aimerais dire à partir du bio, si vous voulez, c'est que le bio, vous l'avez dit, aujourd'hui c'est 5%. Espérons que demain ça sera 10-25%. Le sujet que nous avons traité dans le livre, c'est comment traiter les 95 autres pourcents. Qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce qu'on leur donne comme démarche, comme chemin? Peut-être que ça sera dans 10 ans qu'ils iront au bio, peut-être jamais. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on leur propose? Cette démarche d'agriculture écologiquement intensive a pour mérite d'être suffisamment orientée résultat et suffisamment connectée technologie pour satisfaire les plus réticents d'entre eux.
Alors, justement, allez-y, Michel Dubois, un mot.
Oui, non, ce que je veux dire, c'est que, attention, faut pas voir l'opposition bio et puis le reste, c'est tout le reste,
c'est mauvais.
C'est mauvais. Le reste est en plein mouvement.
Voilà.
On parle beaucoup du bio, mais on parle beaucoup moins de l'agriculture de conservation, par exemple. L'agriculture de conservation, c'est l'agriculture qui cherche à protéger les sols et qui met en place des systèmes de culture assez complexes, parce qu'il faut arriver à avoir le sol toujours couvert. Ça s'appelle le semi-direct sous couvert végétal. C'est une agriculture avec des rotations beaucoup plus élevées. par rapport au bio, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle protège beaucoup plus le sol, parce que le bio, c'est pas a priori son objectif. Donc elle va apporter aussi des choses que le bio, pour le moment, n'apporte pas. Moi, je perçois plutôt des convergences entre plusieurs courants, hein, le bio, l'agriculture de conservation, des agricultures dites plus ou moins simplifiées, ce qu'on appelle justement l'agriculture écologiquement intensive, et tout ça, c'est en train de converger. Ouais. Alors c'est en train de converger, mais ce qui est intéressant aussi, c'est en train de converger dans la différence quand même.
Toujours la diversité. Alors justement, revenons sur cette crise agricole hein, qui donne lieu à un certain nombre de manifestations encore aujourd'hui dans l'ouest de la France, à Caen, à Rouen, donc avec la chute hein, des revenus des agriculteurs. Hein, j'allais dire toutes catégories confondues, deux tiers des agriculteurs en France ne gagnent pas plus que le SMIC. Hein. Les producteurs de lait, ils ont manifesté encore donc à la mi-journée. Alors c'est vrai qu'on leur a annoncé un certain nombre d'aides divers et variés. Ils disent c'est bien, mais allez, pensons à autre chose. Témoignage de l'un d'eux.
On ne peut pas se satisfaire de toutes ces aides conjoncturelles qui certes peuvent pallier à cet effet là qui est très fort, au moins pour le lait et puis pour le porc. Mais ce qu'il nous faut, c'est du structurel. Enfin, faut faire évoluer les stratégies de filière européennes et nationales. Phil Hogans, faut qu'il prenne vraiment conscience de ça. Faut qu'il arrête de d'emmener notre agriculture vers des stratégies vraiment agro-industrielles pures et dures. Quoi. On peut en avoir, mais il n'y a pas que ça. Faut arrêter le libéralisme à 100%. Quoi.
Alors Nicolas Dieu-Cloménil, hein, qui est producteur de lait à Caen, et quand il parle de Phil Hogans, c'est bien sûr le commissaire européen à l'agriculture qui a été reçu donc en fin d'après-midi à l'hôtel de Matignon par le Premier ministre. Par Manuel Valls, Premier ministre qui a sommé la Commission européenne de présenter le 15 mars donc eh bien, des propositions fortes pour sortir de la crise agricole sous peine selon lui de menacer l'ensemble du projet européen. C'est quoi la nature de la crise aujourd'hui, Maximilien Rouer, en France? C'est quoi? C'est la surproduction sur certains marchés. On entendait tout à l'heure Manuel Valls évoquer donc eh bien, l'embargo russe hein, sur un certain nombre de produits agricoles. C'est le casse-tête de normes. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que la France finalement est dans une difficulté?
Fondamentalement, aujourd'hui, on va dire que c'est d'avoir suivi, de ne pas avoir remis en cause assez tôt une stratégie agroalimentaire de volume-prix, indifférencié, de produits standards. Vous avez entendu récemment, lors de la crise de 2013, le mot minerai pour parler de viande. On touche au problème. Quand vous avez des produits alimentaires qui sont tellement indifférenciés qu'on les réduit à des minerais, on est dans ce qu'on appelle le règne de la commodité. Et la commodité, elle est sensible aux prix mondiaux. Donc, tant qu'on reste dans ce marché volume-prix, on est sensible au prix mondial. Et donc, ce que réclamait l'agriculteur, l'éleveur de lait, producteur de lait à l'instant, c'était de sortir de cet engrenage. Sortir de cet engrenage, ça va être de partir du marché des commodités vers les marchés des spécialités. Dans la chimie, que vous connaissez très bien, il y a les leaders mondiaux, les BASF et autres, qui sont sur des marchés de commodités. Un Français, franco-belge aujourd'hui, Solvay, est sur le marché des spécialités. Il est toujours sur les grands volumes, sauf qu'il fait des spécialités. C'est-à-dire qu'il s'adresse à différents types de consommateurs qui ont des besoins en solutions très particuliers. S'il y a un avenir pour l'agriculture française, il sera certainement dans l'évolution d'un marché de commodités, de minerais, vers des spécialités.
C'est pas une crise spécialement française ou ça s'inscrit dans une crise plus générale? Qu'est-ce qu'ont loupé les agriculteurs français ou l'agriculture française et qui a réussi? Qu'ont réussi les autres
en Europe. Un sujet majeur, c'est l'émergence de grands pays. Juste un chiffre qui va tout de suite vous parler. La France a 7 millions de bovins. Le Brésil, 165 millions de bovins. Les États-Unis, 100 millions de bovins. Donc quand on est dans une stratégie volume-prix, donc de commodité, avec si peu de moyens, un coût du travail, comme on le sait, plutôt élevé, une intensité de production plutôt significative par rapport au Nouveau Monde, comment peut-on imaginer tenir? C'est-à-dire, ce qui était très vrai dans les années 80 se révèle faux aujourd'hui parce qu'il y a eu des grands pays émergents qui changent la donne. La réponse que l'on a et qu'on peut avoir aujourd'hui, grâce aux raisons d'espérer, grâce au territoire français, grâce à l'entrepreneur agricole qu'est l'agriculteur français, c'est de pouvoir
qualifié ses productions, ouais, comme on a qualifié le vin, qui est sorti d'une crise majeure, vous vous souvenez, en 20 ans. Le vin français s'est qualifié et aujourd'hui est sorti de la crise. Exactement. Nous pensons très largement que le lait, le poulet, le porc, le bœuf français peuvent eux aussi, à l'instar du vin, sortir par la qualification.
On a perdu trop de temps pour se... peut-être pas se moderniser, Michel Dubois, mais en tout cas pour aller donner un label de qualité reconnu par tous.
Alors, est-ce qu'on a pris trop de temps? Vous savez, il y a parfois des moments où on ne peut pas aller plus vite, que ça va dépendre. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il y a en effet des filières qui sont allées plus vite que d'autres. Mmh. Il y a des filières qui ont réussi à imposer la belle qualité de France ou de leur région, et il y en a d'autres qui ont moins réussi. Le problème, c'est que souvent, les mutations technologiques vont avoir lieu avec des changements de génération. Moi, je suis très confiant pour ce qui va se passer, parce que je vois comment sont les jeunes. Je vois comment sont les jeunes qui sortent de BTS, qui sortent d'école d'ingénieurs, etc., qui vont reprendre l'exploitation des parents, qui sont très critiques, je dis pas de façon négative, hein, mais qui sont très critiques sur la façon dont leurs parents ont géré leur exploitation. Et entre autres, ce qui me frappe, parce que je voyais ce que vous venez de dire, c'est que les jeunes le savent. Les jeunes qui vont reprendre, ils trouvent que leurs parents sont trop rentrés dans un modèle dans lequel eux-mêmes ils baissaient la tête et ils disaient oui au modèle, ils rentraient dedans, bon, et sans de prendre les levées de commandes.
Ouais, ouais, y a des raisons d'espérer, c'est ce que disait tout de suite Maximilien Rouard. Allez, un mot pour terminer, Henri Isaac et Maximilien.
Oui, je crois que ça a été dit en partie, mais il y a eu un défaut de modernisation lié à cette révolution industrielle que l'on connaît, qui est le numérique, mais pas que. L'agriculture danoise sur l'élevage s'est très fortement adaptée à la sortie de la politique agricole commune, et je trouve qu'on n'a pas finalement suffisamment pris compte de la mesure de cette sortie qui a finalement été pas très bien accompagnée en France par rapport à d'autres pays européens.
On a trop vécu sur cette politique agricole.
Mais attention, pour le Danemark, le porc, c'est le centre de son agriculture, oui, ou presque. Elle a sacrifié des pans entiers, bien sûr, ouais, pour ça. Ah, nous, oui, on ne va pas sacrifier un pan de notre agriculture.
Non. Allez, Maximilien Rouer.
Le mot de la fin, écoutez, excellence, c'est la prochaine révolution française sera agricole. Et pour le mesurer, je vous invite à venir au salon de l'agriculture.
Le salon de l'agriculture.
Et notamment au stand Terrena pour voir toutes les technologies qui sont mises en place aujourd'hui.
Terrena, c'est une coopérative de l'Ouest de 25 000 agriculteurs. Voilà donc, dont le président Hubert Garot signe avec Maximilien Rouer, les agriculteurs à la reconquête du monde. Il y aura du monde, hein, j'espère donc, enfin en tout cas je suppose, hein, voilà, au Salon de l'Agriculture. Ça démarre ce week-end pour 8 jours jusqu'au 6 mars, Porte de Versailles. C'est juste à côté des studios de BFM Business. Vous verrez nos bureaux, hein, en passant juste en dessous, évidemment. L'agriculture, l'alimentation, c'est le thème de ce cru 2006. Merci donc, Maximilien Rouer, expert en stratégie agricole. Michel Dubois, donc directeur de l'école d'agronomie, donc La Salle Beauvais.
La Salle Beauvais, il n'hésite pas, parce que nous avons fusionné, nous sommes une école qui forme 250 élèves tous les ans, ingénieurs tous les ans.
Voilà, et puis Henri Isaac, vice-président de transformation numérique à l'Université de Paris-Dauphine. Bonne soirée à tous, rediff complète tout à l'heure de l'émission à 23h à la télé, à la radio, et puis à tout moment sur le site internet. On se retrouvera vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.